Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
On parle souvent du lourd fardeau des proches aidants, de leur culpabilité, de leur force aussi, parfois au-delà de leurs limites. Mais on parle assez peu de leur apprentissage. On parle assez peu de l'expérience initiatique que les proches aidants vivent à travers ce parcours. Et j'avais envie de parler de l'accompagnement, mais d'une manière complètement différente, d'une manière plus introspective, d'une manière plus, je dirais, poétique. Et je reçois pour en discuter Clara Veras Brenne, qui a fait un parcours d'accompagnement de son conjoint Rodrigo, qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui en a fait quelque chose de collectif et de beau, à la fois un mémoire de maîtrise, des mosaïques vraiment très magnifiques, des collages inspirants, et qui a aussi produit à travers tout ça deux conférences qui font du bien au cœur. J'ai assisté à sa conférence cette semaine au Centre Saint-Pierre, où elle découvre, elle nous raconte son parcours de proche aimante, et c'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Clara.
Bonjour, bonjour, merci.
Je pense que tu nous as beaucoup sensibilisés au fait qu'effectivement, on voit souvent les proches aidants à travers certains préjugés. Hein, tu es la grande force et tu parlais dans la conférence un peu du narratif collectif polluant. J'ai envie de t'entendre là-dessus. De quoi on parle?
Bien, en premier, dans la salle d'attente, quand j'attendais pour venir ici,
oui?
Vous avez Canal M et il est écrit « Voir le monde autrement ».
Ah,
ben
oui.
C'est exactement ça. Moi, j'aime l'expression, mais je l'aime pas, mais on vit vraiment dans une culture du désespoir à tout niveau et au niveau de l'accompagnement ou si on est atteint d'une maladie ou peu importe, dès qu'on s'approche de la vulnérabilité que moi j'appelle la tendreté. Et mais l'idée, c'est comment voir autrement? Comment construire un autre narratif personnel avant tout, mais pour peut-être nourrir un narratif collectif qui soit moins réducteur, moins... C'est très complexe, la vie. Donc, l'accompagnement aussi, c'est complexe. Donc, c'est... Et comme j'ai été 15 ans proche aimante, alors il faudra dire que aimante ne veut pas dire simplement c'est parce que j'aime mon conjoint.
Il y a non, c'est ça, c'est au-delà.
C'est une expérience initiatique très profonde, mais on en parlera certainement.
Absolument. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant que dans ce côté-là du désespoir que tu nommes, souvent dans les groupes d'entraide, tu sais, oui, on va parler de notre récit, de comment soit on souffre là-dedans, soit c'est difficile, soit on se sent coupable, ou soit on est fort. Et dans la conférence, tu parlais même, tu sais, de personnage, la femme qui souffre, la femme qui est forte. Mais qu'on parle peu de ce qu'on apprend comme tel dans ça. Qu'est-ce que tu as appris dans tout ce parcours-là? Et je sais que ça pourrait durer longtemps comme réponse.
C'est des apprentissages, mais intérieurs. C'est-à-dire qu'on regarde toujours l'accompagnement selon un premier axe que moi j'appelle l'axe extérieur,
oui,
des soins et des gestes. Et on nous donne plein de conseils,
oui,
plein d'affaires, des infos, comme si on ne savait pas. Mais nous, les personnes proches aidantes qui accompagnons jour après jour pendant des années, attention, c'est d'une évidence qu'on connaît, qu'on a besoin de soutien. Ça,
oui,
c'est d'une évidence. Mais on a besoin de soutien pour pouvoir accompagner, mais aussi on a besoin du savoir de toutes les personnes proches aidantes parce qu'elles ont débordé de créativité, d'accueil de ce qui se passe, d'humilité, de dépouillement. Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est en premier, je dirais, faire un vrai plongeon intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses, c'est difficile à dire, mais c'est d'aller rencontrer réellement qui je suis dans cette aventure-là. Parce que moi, je crois que j'ai commencé l'aventure et pendant plusieurs années comme une femme de devoir, donc une image. Marche avant, je fais tout ce qu'il y a à faire, parce que j'aime mon mari, évidemment. Oui. Mais c'est pas suffisant, juste aimer, cet amour-là est pas suffisant. Donc, plonger dans l'intérieur et sentir... Premièrement, la tristesse. Et la tristesse amène au deuil. Mais j'ai été des années sans sentir, bien sûr que je pleurais, mais je sentais pas le ravage de cette tristesse. Et une fois qu'on l'accueille, qu'on se laisse traverser, il y a quelque chose qui se passe. Donc, apprentissage de l'intériorité, apprentissage de l'accueil. J'ai tellement accueilli de choses, j'aurais jamais cru être capable d'accueillir tout ça. Et oui, mais pas accueillir de façon passive. C'est un accueil où c'est ça la réalité. Et à partir du moment où je l'accueille, qu'est-ce que je, quelle va être mon action? Alors, c'est plus une action qui va surgir de la volonté,
oui,
mais vraiment de l'intériorité. Et ça change tout. Parce que ma volonté, j'en avais beaucoup.
Oui, oui.
Puis c'est l'inverse. J'ai appris à me dépouiller d'un peu de volonté.
De laisser les choses arriver, plus dans une lenteur, dans un...
J'aime bien le terme des taoïstes qui est agir sans agir. Ça veut dire on agit quand même, mais pas avec cette volonté, je vais faire ça. Parce que moi, j'ai craqué, j'ai eu une maladie de poumon. J'ai suivi le parcours type de beaucoup de personnes proches aidantes. On est fatigué, on est épuisé. Et à partir du moment où je suis rentrée à l'intérieur, ça a, pas été, ça a été houleux, attention.
Oui.
C'est extrêmement pénible. Mais à accueillir la souffrance, il y a vraiment des trésors qui surgissent. Je la désire pas, la souffrance, attention.
Oui, c'est souvent lorsque des personnes ont vécu certaines difficultés et qu'ils acquièrent un peu de sagesse là-dedans, on va dire qu'on... pas que c'était une bonne chose, mais comme il y a des personnes qui ont comme de la difficulté quasiment à voir l'apprentissage qu'on a eu dans ça, qui vont rester dans la posture de douleur ou de plainte ou de... Et quelque chose que tu as dit dans ta conférence, j'ai beaucoup aimé, c'est de remanier au lieu de ruminer. C'est très beau, ça.
Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Boris Cyrulnik qui est bien connu pour son travail sur la résilience, mais dans ma maîtrise, je l'avais lu beaucoup, mm-hmm. parce que je me sentais traumatisée.
Ouais.
Mais à un moment donné, j'ai vu ses recherches et ses travaux sur le narratif. Et pour lui, il est crucial qu'une personne souffrante entreprenne de faire un récit, mais un récit qu'elle va transformer. Et en transformant, en métamorphosant son récit, elle va métamorphoser sa souffrance. Donc, c'est un récit qui aborde la souffrance, mais par un autre angle que la répétition et la plainte. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai été dans des groupes de soutien, on entend à tour de rôle le malheur, mais... la pure description du malheur de tout le monde, mais c'est pas transformé. Que ça soit transformé par l'art-thérapie, des collages, des mosaïques, mais par la poésie, par trouver d'autres mots qui disent la souffrance, mais qui la disent autrement.
Mais ce que je trouve beau dans ton œuvre, c'est que justement, tu as fait de quelque chose de personnel, quelque chose de collectif. Où chacun peut comprendre parce qu'il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a toutes les épreuves qu'on peut vivre. Il y a quelque chose de très universel dans ta démarche. On va parler un petit peu plus, là, comment tu as transformé ça. Tu as évoqué ta maîtrise, donc c'est une maîtrise en psychosociologie sur le deuil blanc. Explique-nous ce qu'est le deuil blanc.
C'était pas sur le deuil blanc, ça incluait le deuil blanc. C'est une maîtrise que j'ai faite qui explore, qui étudie les vécus intérieurs d'une personne qui accompagne quelqu'un qui vit avec des troubles cognitifs dégénératifs. Et dans ça, il y a le deuil blanc, évidemment, à l'intérieur. À vrai dire, je crois que le deuil blanc est le socle de
la pierre angulaire de
l'aventure Alzheimer. Moi, j'aime bien l'appeler aventure Alzheimer. Il avait aussi la maladie d'accord de Lewy qui vient rajouter de la complexité. Mais c'est le deuil très particulier qu'on vit quand la personne est toujours vivante, mais qu'elle disparaît peu à peu. Elle reste toujours vivante avec son corps et sa sensibilité. Attention, ce n'est pas le reste d'un humain déchu, mais c'est vraiment plus la personne que j'avais rencontrée. Donc, et c'est très particulier et très complexe parce que c'est rempli de paradoxes et c'est difficile comme deuil. Et c'est un mot que moi j'ai appris 6 ans après avoir commencé l'accompagnement. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on parle du deuil blanc. Mais pas pour regarder la personne comme une pauvre proche aidante. J'aime bien dire ça. J'haïs ça, être placée dans la personne qu'on doit assister.
Oui.
Mais quand quelqu'un est dans un deuil, dans une... l'humanité, qu'est-ce que c'est? C'est d'accompagner les personnes en deuil. Mais quand le deuil blanc, moi je l'appelle le deuil invisible, quand le deuil est invisible, on n'est pas accompagné humainement. C'est terrible. Ça provoque une sensation d'isolement brûlante. Alors, quand tu parles que j'ai fait quelque chose de collectif, j'ai vécu tellement d'invisibilité comme beaucoup, beaucoup de personnes proches aidantes, ce qui amène tellement d'isolement que ça a été très difficile pour moi de sortir de la sphère intime et d'amener ça pour tout le monde, mais je sentais qu'il fallait nourrir les autres d'une autre vision. C'est tragique, hein? C'est tragique. C'est souffrant, mais c'est pas que ça.
J'ai aimé la phrase que tu as dite aussi dans ta conférence. Le deuil se fait dans le sous-sol de notre être.
Ah oui, c'est pas nous qui faisons notre deuil. Ça n'a jamais été ça. C'est un processus intéressant, hein? Parce que je l'ai beaucoup étudié pour faire une première conférence sur le deuil blanc. Puis il y avait très peu d'écrits. Alors j'ai étudié le deuil effectif quand il y a décès.
Oui.
Et ce n'est pas une recette, ce n'est pas une décision, je vais faire mon deuil, là.
Oui, puis on nous parle des étapes, et là, ce que j'entends, c'est de lâcher prise un petit peu, parce que moi, je vois souvent les graphiques, je travaille en gestion du changement, puis c'est souvent les mêmes étapes, et on nous force à nous situer où on est là-dedans, et j'entends un accueil de se lâcher aussi un petit peu, dans, tu sais, se situer sur un point précis... De s'accueillir soi-même aussi dans
Oui, le temps que ça j'ai prend. Deux idées qui viennent en même temps dans ma tête.
Allons-y avec une.
Oui, ben là, elles viennent de s'évaporer un peu, c'est pas grave. moi, je crois que pour le deuil blanc, pour moi, comme je vais aller avec cette première idée qui me revient. Comme personne proche aidante, tout le monde me regarde. Rodrigo est encore à la maison, il est resté 12 ans à la maison. Donc, je fonctionne, mais à l'intérieur de moi, il y a une crypte secrète, invisible, inconnue, qui est ce deuil blanc, mais que je partage à personne parce qu'il est invisible et je ne le savais pas moi-même.
Non, c'est ça. C'est difficile de partager quand c'est dans une fenêtre de nous qu'on n'a pas encore identifié.
Donc, moi, j'étais là, ben voyons, c'est pas si terrible. T'sais. Mais quand j'ai entendu le mot deuil blanc... C'est pas que j'arrive tout d'un coup dans une autre étape, mais je fais, ben voyons donc, je suis pas mal à mancher. Je suis quelqu'un qui perd l'homme de sa vie, le père de notre enfant. J'ai une tristesse infinie. Et c'est d'accueillir la tristesse. Ça a été une porte magique. Mais c'est pas facile d'accueillir la tristesse. Je dis ça comme si c'était waouh, un cadeau, yéyé. Pas du tout. Mais c'est la porte, c'est ce moment où j'ai ouvert la porte à accueillir cette tristesse, où j'ai pu commencer mon chemin initiatique, je pourrais dire, d'où l'idée que je dis que le deuil blanc est vraiment la pierre angulaire de mon accompagnement.
Est-ce qu'on peut dire que le deuil blanc, c'est une perte de l'accès qu'on avait à l'autre, ou cet accès-là se transforme dans le sens que la personne ne va plus nommer les choses? Mais on est capable, un peu par les yeux, tant qu'on n'arrive pas à une certaine étape, de garder cet accès-là?
Un bébé, tout petit, il ne parle pas. Il ne sait pas qu'il est Canadien, une fille ou un gars. Il ne sait pas que sa mère s'appelle telle. Et on a des contacts. La personne qui est atteinte... Mais là, on parle du stade final. Hein?
Ouais.
Parce qu'avant le stade final, Rodrigo a été 12 ans... avec un désir, c'est un écrivain qui a écrit. Il y a un projet de livre là-dessus.
Oui, pendant 6 ans, il a documenté son expérience.
C'est incroyable. Moi, j'en ai fait une mise en lecture. J'ai du matériel pour la vie qui me reste. Mais là, j'ai oublié ta question, du coup.
Bien, on va en profiter pour faire une courte pause avec Clara, puis on revient dans quelques instants. We'll be right back. De retour en studio avec Clara Veras-Bren, qui a donné cette semaine une conférence. Je dis une conférence, mais je le vois plus comme une expérience sur le parcours d'une proche aimante et tout son parcours initiatique, tout ce qu'elle a découvert à travers ça. Et Clara, tu nous parlais aussi de Rodrigo, qui a été conscient longtemps de ce qui se passait et qui a écrit là-dessus.
Alors, Rodrigo, ça a l'air incroyable, mais c'est réel. Je suis témoin, notre fils est témoin, a été lucide qu'il était malade de la maladie d'Alzheimer pendant 11 ans. Mm. Il a pu écrire pendant 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est Rodrigo, parce qu'il avait un enfant de 2 ans quand la maladie a commencé. Il a une femme plus jeune, il vit dans une coop. C'est un écrivain, un homme de théâtre. Donc, il avait... peu importe. C'est un homme que j'aimerais qu'on parle, parce que vous, c'est les héros anonymes. Oui. Et je crois que c'est pas toutes les personnes, mais toutes les personnes qui vivent des épreuves sont à quelque part des héros et des héroïnes. Pas des personnes à admirer, c'est pas dans ce sens-là. Mm-hmm. Dans le sens qu'elles plongent profondément...
dans une quête.
Et qu'elles découvrent des choses parce que leur vie leur amène une maladie. Rodrigo a, dans ses écrits, même remercié à un moment donné sa maladie Alzheimer pour lui avoir montré l'humilité, la tranquillité, pour lui avoir appris à faire les deuils de tous ses traumas. C'était un multi-traumatisé, un Chilien qui avait vécu le coup d'État au Chili. Et comme si Alzheimer lui avait ouvert des coffres bien fermés. Et ça, il en était conscient, mais pour ça, il faut qu'on leur parle. J'ai accompagné aussi une dame que je ne connaissais pas et j'ai réussi aussi. Mais c'est long, on parle, on prend du temps et ils ont des choses à dire et on peut voir qu'ils sont en cheminement. C'est des héros en cheminement, mais ils sont tellement, tellement invisibles.
Mais juste quelque chose que j'ai retenu aussi, qu'ils voyaient ce qui s'en vient. Et c'est cette lucidité-là, parce qu'on sait tous qu'on va vieillir, on sait tous qu'on va mourir, mais c'est comme si, comme tu le dis, on met ça dans une petite boîte à laquelle on ne veut pas trop penser. Et lui, il aurait pu rester dans le déni, mais il a choisi de rentrer dans le muscle de l'histoire puis de s'investir dans son aventure. Ça prend
du
courage
aussi. Oui, à un moment
aussi.
Donné, il allait dans un camp... pas un camp de jour, je ne sais plus comment
on
dit.
Du répit?
Deux jours, c'est ça, mais il y a un mot que j'ai oublié. Et il y avait des gens très atteints qui ne bougeaient plus. Et lui, il a écrit « J'ai vu leurs yeux ». Et dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils étaient vivants. Et j'ai vu que c'est vers là que j'allais. Et il a écrit « J'ai plus une minute à perdre ». Il s'est raccroché à la vie d'une façon créative et nouvelle. Attends, quelqu'un qui a Alzheimer, c'est ça, voir le monde autrement, voir les personnes atteintes autrement, voir la maladie autrement, voir les personnes proches aidantes autrement. Vous avez remarqué, je n'utilise pas le terme « prochainement » pour tout le monde. Il y a des critiques sur ce mot.
Ah oui?
Comme quoi, moi, je l'utilise pour moi, mais pas pour les autres. Chacun se nomme. Comme quoi, on met ça sur le dos des femmes, l'accompagnement déjà, puis de leur amour, puis ça fait le jeu des gouvernements, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer.
Bien, on s'entend que vous avez t'as nommé quelques chiffres dans la conférence qui sont, je ne sais pas, comme 8 milliards ou quelque chose du genre, je me rappelle pas.
Les personnes proches aidantes ont fait 80 % des soins, qui équivaut à 5 milliards de dollars au salaire minimum.
Wow.
C'est un vrai, vrai travail. Je ne sais pas pourquoi on a bifurqué là, mais...
Non, mais c'est se rendre compte que... Parce que tu disais le jeu des gouvernements, mais il est vrai que si vous n'étiez pas là... Les proches aidants, ça serait vraiment un gouffre au niveau de l'aide à ces personnes.
Mais ma présentation, parce qu'on ne l'appelle pas une conférence, moi j'aime bien le mot présentation, je présente non pas un témoignage, juste mon expérience, je présente mon mémoire de maîtrise qui est sur l'expérience intime intérieure. Et donc, je ne suis pas sur le registre des chiffres, mais quand même, c'est du travail invisible. Je ne suis pas dupe. Il n'y a pas que le chemin intérieur, mm-hmm. mais comme on n'en parle pas de ce chemin intérieur, j'ai décidé d'en parler.
Oui, mais je pense que c'est comme dans une histoire, il y a différents protagonistes, il y a la vision de différentes personnes, puis on se raconte, on peut avoir une même histoire, la raconter autrement. Tu sais, moi, ici, j'essaie de faire le lien un peu à quel point on a besoin des héros anonymes, parce que collectivement, sinon, on serait vraiment perdu, on manque de possibilités de soutien. Mais j'aimais justement de pouvoir offrir une vision plus poétique, une vision qui n'est pas de la psychologie comme telle, mais je trouve qu'il y a une prise de pouvoir dans ce que tu as fait, tu sais, aussi.
Absolument.
Avec la mosaïque.
Je veux juste dire, parce que moi, ce que j'ai senti, je suis sortie de la seule sphère de la souffrance et de la seule sphère psychologique, parce qu'on est toujours là-dedans, dans notre société. Et je suis rentrée dans la création, l'introspectivité et la création, et ça m'a permis de sortir des images autres que cette femme souffrante ou cette super femme. Mm-hmm. Et moi, j'appelle ça un kaléidoscope. Et du coup, la personne proche aidante a des volets incroyables, symboliques. Et d'aller puiser à notre propre symbolisme personnel m'a insufflé une dose de vitalité qui m'a permis de continuer l'aventure. Rodrigo a vécu 2 ans et plus en CHSLD et ça m'a permis de ramener Rodrigo à la maison. Mm. Dans les soins palliatifs et de mourir à la maison, ce que je n'aurais jamais pu faire sans ce mémoire et sans cette transformation de mes propres représentations mentales et des représentations mentales désespérantes qu'on a dans notre narratif collectif.
Tu l'as assisté beaucoup dans ces 2 ans-là en CHSLD. Tu nommais l'épreuve suprême pendant la présentation.
Oui, c'est un lieu où il y a beaucoup de travail, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amour, mais ça reste un lieu souffrant, un lieu qui est à l'image de notre société. Ça va vite, on se protège, on a peur des grandes questions existentielles que sont la maladie, la souffrance et la mort. On apprend aux préposés, aux infirmières. C'est une infirmière elle-même qui me l'a dit dans sa formation. On lui apprend à se protéger. Moi, je crois que les préposés ont un chemin à faire, comme les personnes proches aidantes. Nous, on est engloutis dans la souffrance de l'autre qui amène le stress de compassion. On a un chemin de distanciation à faire, mais de rester engagé dans la souffrance de l'autre.
Engagé sans devenir englouti.
Exactement. Et les préposés et autres ont un chemin à mi-chemin. Enlever ces murs et redevenir humain parce que c'est...
Dire, je dépose avant mon travail ceci dans une boîte, je le laisse là, alors que tu le vois comme quelque chose de plus organique, peut-être, de plus...
C'est que cette préposée, parce que j'en ai vu des préposées merveilleuses, qui était affectée par la souffrance. Quand Madame X crie et qu'elle souffre, ça remue tout le monde. Mais il n'y a pas de place pour accueillir la souffrance des personnes qui travaillent en CHSLD. Pas du tout. Au contraire, on leur dit, n'y allez pas. C'est pas possible, c'est impossible. On est tous à la même enseigne. On va tous vivre la maladie, possiblement. La souffrance, on la vit tous et on va tous vivre la mort. Et pourtant, on a peur de ça. Est-ce que je peux me permettre, le temps passe, mais je voudrais dire qu'il y a un Africain qui...
J'allais t'amener sur un peu les difficultés de notre société occidentale. Fait que dans ce sens-là, je pense que nos propos vont se rejoindre. Vas-y, Clara.
Quand je l'ai lu, ça vient d'Afrique. C'est incroyable. Il dit que ces expériences d'accompagnement, par exemple, dans nos sociétés occidentales, sont extrêmement souffrantes parce qu'elles ne sont pas vues collectivement comme des événements de possible maturation, comme des possibles chemins initiatiques qui seraient alors soutenus, reconnus et soutenus par l'entourage et la collectivité. Au contraire, on en parle de plus en plus comme de quelque chose... on en parle de toute façon comme quelque chose d'uniquement terrible. Et dernièrement, j'ai entendu qu'on allait jusqu'à pathologiser les personnes proches aidantes. On va les considérer comme des patients pour mieux les aider. Elles vont avoir un dossier médical. On n'est pas du tout en train de les aider à cheminer dans un chemin initiatique.
Ben, j'imagine que c'est, comment il s'appelle, du Burkina Faso?
Oui, oui. Mali Doma Sommé.
Oui.
Merveilleux. On a tellement à apprendre de ces collectivités autres qui savent qu'est-ce que c'est une communauté encore. Mm. On l'a su au Québec. Ça oui. se perd. On l'a su en Europe, ça se perd.
Oui, on a besoin beaucoup de ramener du collectif et c'est un des... J'ose pas dire des conseils que cette conférence-là donne, mais tu parles beaucoup de l'importance du collectif, de la communauté, de l'art-thérapie, du travail introspectif. Tout ça nous aide à sortir de l'isolement.
En premier, sortir de l'isolement. Mm. Aller voir les gens où on peut parler de nos expériences, parce qu'il y a beaucoup de gens, on commence à dire, je suis dans un party, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, je suis accompagnante, mon mari a Alzheimer. Boum, la conversation vient de s'arrêter.
Ouais.
Les gens, la personne s'éloigne. Alors, sortir de l'isolement, rentrer à l'intérieur, il y a des gens qui peuvent aider à ça. On n'est pas obligé de méditer pour faire ça. Il y a toutes sortes de techniques, mais être proche de son corps, c'est par le... Pour moi, c'est par le corps que ça commence. Il y a la créativité, pas pour faire des choses jolies, esthétiques, pas du
juste
tout.
Juste s'exprimer. Non.
S'exprimer autrement que dire c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oui, mais c'est dur comment? Ça a quelle couleur, cette tristesse? À un moment donné, moi, je me suis vue faire une larme sur toute la grandeur du papier et à un moment donné, j'ai mis plein de fleurs autour de la larme parce que je sentais que c'était pas que de la tristesse. J'avais encore mon compagnon. Il y avait notre fils. On bâtissait notre famille.
Clara, on aurait pu avoir cet entretien-là encore très longtemps. Je vais rappeler que ton exposition de mosaïque est exposée dans le hall d'entrée du Centre Saint-Pierre toute la durée du mois d'avril, que ton mémoire est disponible en ligne et que la conférence que tu donnes est disponible également, que ce soit pour, en fait,
Pour tout le monde.
Hein, pour les intervenants, mais aussi toute personne qui...
Même des gens qui ne vivent pas cette situation. Oui. On me le dit sans arrêt, c'est bon pour moi que mon enfant est très handicapé. Et aussi, il y a une mise en lecture. Si on veut me contacter, c'est à écouter pour créer un dialogue entre les personnes qui sont atteintes et le reste du monde.
On se garde au courant, Clara. Et de mon côté, je remercie notre merveilleuse équipe qui nous permet de recevoir ces héros anonymes à chaque semaine. Et je vous invite à écouter aussi tous nos autres épisodes sur la balado. Bonne semaine, on se retrouve bientôt.